Bonjour à chacune, à chacun. Effectivement, tiens bon, je l'ai appelé ça des projets de bonheur. Et puis c'est effectivement, je pense, un clin d'œil du Seigneur parce que j'étais parti sur un tout autre texte. Et puis, juste un jour avant, je me suis dit non, pour ce dimanche, c'est vraiment ce texte de Jérémie que j'ai envie de partager parce que on le partage assez rarement, en fait, ce texte, en dehors, vous savez, de quel événement? Des mariages, exactement. C'est le texte préféré généralement de jeunes époux qui se disent, bon, pour que mon projet soit un projet de bonheur et non de malheur, je le place sous ce patronage. C'est une très bonne idée, mais c'est vrai que ça peut s'élargir aussi à d'autres circonstances. Tiens bon, et puis je vous laisse notre question qu'on se pose depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui, moi, en tant que croyant, et qu'est-ce qui, nous, en tant que communauté de croyants, nous permettent de tenir bon dans ce temps particulier de pandémie qui s'allonge. Je ne vais pas m'allonger là-dessus ce matin, mais qu'est-ce qui nous permet de tenir bon? Et puis je crois qu'on essaye de stimuler les différentes réactions, les différentes manières de voir aussi la vie, et qu'est-ce que notre foi nous apporte dans ces circonstances. Et là, ce verset 11 du chapitre 29, il est percutant. C'est Dieu qui parle, et il dit, je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Et une insistance, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner quoi? Un avenir et un espoir. Ça tombe bien, hein? Et là, l'Assemblée dit Amen. Amen, merci. Afin de vous donner un avenir et un espoir. Dans un temps flou, on a besoin de perspective. Alors, j'ai choisi cette image parce que je pense qu'elle est un peu susceptible d'interprétation, parce qu'effectivement, il y a une perspective, mais elle est quand même un tout petit peu orientée, puis on se demande si on va la ramasser ou pas. On est un peu dans cette tension, faut regarder la réalité en face. On a des perspectives, mais on ne sait pas exactement quoi faire avec. Mais ce qui est sûr, c'est que l'être humain a besoin de perspective pour tenir bon. L'être humain a besoin de projets, de se projeter, d'aller de l'avant, indépendamment finalement des circonstances. Et on a besoin de savoir qui nous donne ces perspectives. Et là, il y a quelque chose de fort qui se joue dans ce texte, parce que Jérémie, il est confronté à une multitude d'autres voix prophétiques. Quand on lit la Bible, on a peut-être l'impression qu'il y a quelques voix prophétiques qui se dégagent et puis que c'est les seules qui existent finalement. Mais Jérémie, en fait, il est confronté à une concurrence de voix prophétiques. Et ça me paraît aussi très intéressant de voir que cette parole-là, elle tombe au milieu d'une multitude d'autres. Ce n'est pas la seule parole que les Israélites pouvaient entendre. Et dans notre situation, c'est exactement la même chose. On entend une multitude d'autres paroles. Une multitude de projets possibles et de savoir qui nous donne cette parole, ça fait toute la différence. Et nous pouvons prendre cette parole comme venant directement de Dieu. Elle passe par le prophète, mais elle vient directement de Dieu. Et Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il dit à ce peuple à ce moment-là, c'est la même chose. Et il parle en je trouve ça très beau. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre attention. Déclaration du Seigneur. C'est comme s'il devait insister. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Comme croyants, qu'est-ce qui nous permet de tenir bon? C'est on sait qui nous donne la perspective. Ne l'oublions jamais. Qui nous donne la perspective, ça fait toute la différence. Alors voilà ce que nous dit ce texte qui est adressé aux Israélites qui sont exilés à Babylone. Voici ce que dit le Seigneur Yahvé des armées, le Dieu d'Israël, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes. Et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur, Yahvé des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est mensongèrement qu'ils vous parlent en prophète en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Déclaration du Seigneur. Mais ainsi parle le Seigneur, dès que 70 ans ou 70 ans se seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Je connais moi les plans que je prépare à votre attention. Déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai banni, déclaration du Seigneur, et je vous ramènerai en ce lieu où je vous ai exilé. Amen. Le contexte pour ce texte, il est assez clair, c'est une situation d'exil, c'est-à-dire que l'on part d'un endroit et on est déporté dans un autre endroit. Une situation d'exil, c'est d'être loin de ce que l'on connaît, être loin de nos repères habituels. Et toute proportion gardée, parce que je ne suis pas en train de dire qu'on est dans la même situation que le peuple d'Israël, mais il y a une certaine forme d'analogie où on est quand même assez loin de ce qu'on a l'habitude d'avoir et de ce qu'on a l'habitude de vivre, et ce, même si on est parmi les plus âgés de notre communauté. C'est une situation, je suis sûr que si je demande à ceux qui ont 70 ans et plus, qui n'ont encore jamais vécu. Comme moi, j'ai discuté avec plusieurs pasteurs, même des très expérimentés, ils n'ont encore jamais vécu quasiment une année de fermeture partielle d'église, une année où les relations sont mises à mal. Quand on se balade dans les rues, il y a beaucoup de choses qui changent. Pour la première fois, je dois parler avec un truc devant la bouche. On s'habitue à ces éléments-là, mais ils sont quand même très loin de ce qu'on avait l'habitude de vivre et de ce qu'on avait l'habitude d'apprécier aussi, une forme de liberté. Il y a une forme d'analogie, même si je ne vais pas aller trop loin, mais nous sommes quand même d'une certaine façon aussi, nous, dans une situation d'exil, loin de ce que l'on connaît, loin de nos repères habituels. Et dans une situation d'exil, on a besoin d'une parole prophétique. On a besoin d'une parole particulière qui nous vienne de Dieu. Et je crois que ce matin, mon but, c'est que nous puissions nous l'approprier, cette parole de Jérémie. On a besoin d'une parole prophétique parce qu'elle a de quoi nous interpeller, elle a de quoi nous remettre en question, et surtout, comme l'a souligné et l'a perçu Marilyn aussi, elle a de quoi nous mettre en route. En quoi notre foi fait la différence, c'est que nous avons, nous, les croyants, la possibilité d'écouter une parole différente. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de différence. On a la possibilité de consciemment se mettre à l'écoute de Dieu et de faire confiance à Dieu qu'il va nous adresser une parole spécialement pour nous. Une parole qui va nous faire du bien, une parole qui va nous projeter en avant. Et ce ministère prophétique, il est toujours d'actualité dans la communauté de Dieu. Il est toujours ce don de Dieu pour la communauté, ce don de l'Esprit pour la communauté. Et ce don, pour être exercé, ce don de prophétie, demande une écoute particulière de Dieu et une prise de risque d'oser confier à une personne la parole que Dieu lui-même nous a transmise, ou en tout cas ce qu'on croit avoir compris de Dieu. C'est un exercice qui demande beaucoup d'humilité et beaucoup de courage, d'oser transmettre une parole que l'on croit venir de Dieu. Et pourtant, c'est un don, clairement, dans le Nouveau Testament, qui nous est donné la part de Dieu pour l'Église, pour la communauté. Et je crois que dans des situations d'exil, on a besoin de ces paroles prophétiques, comme on peut la partager ce matin. Pour celles et ceux qui reçoivent une parole prophétique, et pour celui qui la donne, ou celle qui la donne, c'est toujours une parole donnée. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole qui peut être imposée. C'est une parole qui est offerte et que l'autre peut recevoir ou dire « Non, pas tellement pour moi aujourd'hui, je ne la sens pas de cette manière-là. » C'est un exercice très subtil. Et j'aime bien cette formulation qui peut peut-être nous aider de manière très concrète lorsqu'on a l'impression d'avoir reçu une parole pour quelqu'un, te dire « Il me semble avoir reçu cette parole du Seigneur pour toi, je te la donne et en toute liberté, tu la prends, tu la laisses ou tu la laisses simplement reposer. » Parce qu'on a tous, peut-être en tout cas moi, j'ai vécu autant des bonnes expériences avec des paroles qui m'ont été données, autant des expériences beaucoup plus négatives parce qu'il y avait une volonté de prendre un peu le pouvoir sur moi. Puis ça, c'est jamais très agréable. On n'aime pas tellement, c'est ce qu'on appelle même presque des abus spirituels. C'est très subtil. Mais par contre, au nom du risque de se dire on va renoncer à ces paroles prophétiques, je pense qu'on se prive un peu de quelque chose que Dieu lui-même veut nous donner. Alors je nous encourage peut-être aussi ce matin à oser simplement s'échanger, et j'insiste sur ce caractère simple, des paroles que l'un ou l'autre pourra avoir reçues pour une autre personne. On voit que l'Esprit parle, là on s'est rencontré sur une même parole pour ce matin, et c'est toujours le cas dans la communauté des enfants de Dieu. Oser et le faire avec humilité. Ce qui suppose une écoute de Dieu, et puis ce texte nous le dit aussi, hein. Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous me prierez et je vous entendrai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Et je crois que ça, c'est une des leçons que j'apprends pendant cette pandémie, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de croyants à travers le monde qui recherchent Dieu avec une vigueur nouvelle, avec une force nouvelle, avec une intention nouvelle de vraiment discerner quelle est la parole de Dieu pour nous, cette parole prophétique. Un deuxième aspect qui nous inspire dans ce passage de Jérémie, c'est un ordre. Jérémie, il dit à ces personnes qui sont exilées loin de chez eux, qui sont un peu pris au dépourvu, qui sont loin de tous leurs repères, il ne leur dit pas « attendez que ça passe », effectivement, il leur dit « bâtissez, construisez, plantez des jardins, mangez-en le fruit ». C'est une succession, non pas de propositions, mais c'est une succession d'ordres du Seigneur. Non, on a un peu plus de peine avec les ordres du Seigneur, hein. On se dit toujours que Dieu est un jeu de l'amour qui nous cajole un peu. Je n'ai pas exactement cette même image de Dieu, même si c'est un Dieu d'amour, il est souvent beaucoup plus incisif qu'on veut le croire. Bâtissez, construisez, allez-y. Un encouragement à ne pas subir la situation. Et c'est une ligne qu'on essaie vraiment de suivre dans notre Église depuis le début de cette crise, d'essayer de ne pas subir la situation, mais d'essayer vraiment et de s'adapter et de maintenir ce lien communautaire. Et je crois que là, on est tous un peu attirés à la même corde et à essayer de se dire, on va regarder vers l'avenir, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec les possibilités actuelles. Et là, on a eu ce lundi, donc il y a quelques jours, une rencontre évidemment par écran interposé avec tous les responsables du ministère Enfance-Jeunesse. Parce que pendant qu'on est là, nous, il y a des dizaines de personnes qui se rencontrent encore dans nos locaux, toujours avec les normes de sécurité, évidemment, avec les masques et compagnie, pour pouvoir continuer ce ministère, je crois, qui nous est confié de manière particulière à notre Église, de transmission de la foi. Et quand on a appris la bonne nouvelle à mi-janvier qu'on pouvait rester ouvert, moi, mon principal ouf de soulagement, ça a été génial, on peut continuer notre ministère pour les 0-15 ans. Ils ne vont pas être une fois de plus coupés de cette présence du Seigneur et de cet enseignement de la foi. Et là, il y a un effort, une manière de bâtir, une manière de construire qui, malgré les circonstances, reste d'actualité. Et on le doit à toute cette équipe, là on est avec le conseil plus tous les responsables ministères Enfance-Jeunesse qui chapeautent toute une équipe de moniteurs. Et j'aimerais aussi nous associer à leur travail, à leur ministère et à dire, nous, on pense à vous et particulièrement aussi à Francesco qui chapeaute aussi ce ministère-là. Parce que la situation actuelle de la jeunesse, elle est assez sensible. On entend chaque jour bientôt des situations de détresse. Il y a des personnes aussi de notre communauté qui travaillent avec des enfants, des adolescents en difficulté. Ce n'est pas une période évidente pour les 0-25. Ce n'est pas une période évidente et il y a des enjeux majeurs. Et là, je crois que notre rôle en tant que communauté, de continuer de bâtir, de continuer de construire dans ces villes-là, malgré les embûches qui nous sont faites, c'est une dimension essentielle. Alors, je nous invite vraiment à la prière pour ce ministère-là. Je nous invite à les porter dans nos cœurs. On a la chance d'être une communauté de toutes les générations. Et ce matin, peut-être de manière particulière, j'ai envie de mettre en avant ce ministère enfance-jeunesse, parce que la situation est sensible et il y a des enjeux forts pour rester en lien, pour être aussi là à leur écoute. Une autre manière de construire, c'est que jeudi dernier, on a pu commencer la préparation au baptême. Et pour nous, en tant que communauté, de se dire qu'on peut continuer à prendre des engagements forts, comme celui du baptême, même dans ces temps où tout semble un peu paralysé, ça donne aussi des directions. Ça donne aussi des axes où on se dit, là, on tient bon, on va dans la bonne direction. Et là, actuellement, pour le moment, 3 personnes se sont levées et il y a toujours de la place. On a encore le droit au moins d'en accueillir une, parce que ce sera un groupe de 5 maximum. Mais s'il devait y en avoir plus, je fais volontiers un dédoublement de la formation. Et n'hésitez pas à venir et ne vous restreignez pas pour des causes de crise sanitaire. C'est là, je pense que dans ce temps de pandémie, c'est aussi beau de pouvoir se dire « je prends cet engagement avec le Seigneur pour construire quelque chose de solide ». Et la chose la plus solide qu'on peut construire, c'est cet engagement à travers le baptême, où on exprime publiquement « oui, j'appartiens au Christ et c'est avec lui que je vais continuer ma vie ». Voilà, c'est Caroline qui est avec nous ce matin, qui a passé par les eaux du baptême il y a quelques années de cela. Et puis, c'est aussi beau de pouvoir se dire quand peut-être je traverse une crise de foi, parce que je me dis, ben voilà, il y a ces problèmes qui s'accumulent, de se rappeler de ce moment du baptême. Ce n'est pas rien, ce moment du baptême. Peut-être qu'il remonte à 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais se rappeler de ce moment-là et se dire, là, il y a une forme de roc sur lequel j'ai bâti mon existence. Une forme de roc sur lequel Dieu et moi, on a fait alliance de manière particulière. Et quand ça commence à tanguer, pour moi, c'est des balises qui sont irremplaçables. Des balises qui me permettent de tenir bon et de garder mon cap parce que j'ai pris cet engagement en toute liberté et que cet engagement continue de me porter. On va aussi lancer, durant le mois de mars, un cours alpha, durant les mois de mars-avril, parce qu'on se dit effectivement toutes ces questions qui sont posées, elles ont besoin de réponses, de pistes de réponses en tout cas, que nous, en tant que croyants, on peut proposer. Alors là aussi, on doit un peu faire de la gymnastique, parce que d'habitude, la base du cours alpha, c'est la qualité des relations. On aime bien prendre l'apéro ensemble, on aime bien manger ensemble, on aime bien avoir des petits groupes de discussion ensemble. Et là, c'est toujours des éléments qui sont super conseillés par Alain Berset. Alors, on s'est dit, on va vraiment les faire. Alors, on va tout faire ça, mais derrière un écran. Donc, on va essayer de se dire, mais peut-être que ça permettra de rejoindre des personnes sans qu'il y ait ce courage à prendre de se confronter directement avec les personnes. Et le message, et puis là, je fais confiance au Saint-Esprit, il va continuer à être transmis. Donc, voilà, il y a pas mal de choses hein, sur lesquelles on peut bâtir, construire, et continuer d'aller de l'avant. 2 éléments encore que j'aimerais nous laisser, beaucoup plus brièvement. Ce verset 7, qui m'a surpris, je ne savais pas qu'il était là, de se dire que notre rôle, il n'est pas seulement concentré à l'intérieur de nos murs, mais que nous faisons partie d'un ensemble plus large, et en l'occurrence d'une ville. Et je trouve ce verset de favoriser la paix de la ville incroyable, et puis incroyablement beau. Puis là, c'est vrai que le mercredi matin, puis encore quelques autres matins par semaine, le fait d'avoir toujours ouvert ce qu'on appelle le café sympa, qui est un moment de prière et d'accueil pour celles et ceux qui en ont besoin, c'est une manière de favoriser la paix, c'est une manière de lutter contre les solitudes, c'est une manière de rester ensemble pour favoriser la paix de la ville. Et finalement, je termine cette prédication avec un verset que je trouve un clin d'œil qui est assez rigolo, c'est de me dire « Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. et qu'une fois, on ne sait pas quand, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis. » Je ne sais pas si c'est exactement le Seigneur qui nous a bannis. Prenons-le comme un clin d'œil. « Et je vous ramènerai en ce lieu tous ensemble, d'où je vous ai exilés. » Alors, prenons cette perspective, sans plus d'inscription, sans plus de liste d'attente, pour nous dire « c'est ce qui nous attend ». Amen.